Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on commente l'actualité de la semaine. Comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de renom et cette semaine, le roi de l'information dans la MRC Maria Chapdelaine, Monsieur Jules Simard.
Bon, salut Jules. Salut, ça va très bien, ça va dans le roi.
Voilà, mais c'est une encyclopédie.
C'est quoi cette monarchie ce matin?
T'es la référence au niveau de l'information locale depuis de nombreuses années dans notre secteur.
En fait, depuis, j'ai commencé en 1974, d'ailleurs à la télévision locale, à la télévision communautaire, où là, on faisait plus technicien et on enregistrait, comme on dit. Et j'ai commencé, et à la radio, j'étais pour CKRS Radio dans le temps. Okay. J'étais correspondant pour eux autres
pour le Nord du Lac?
Oui, pour le secteur d'ici. Et j'ai arrêté en 1980. Là, j'étais rendu... en 84. Parce qu'en 80, je me suis ramassé au quotidien. J'ai été au quotidien pendant... Progrès dimanche et quotidien pendant une couple d'années, 3-4 ans. Après ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'étais revenu faire la couverture pour le quotidien dans le secteur ici. Et après la grève de 84 au quotidien, on me dit « bon ben non, là, tu vas revenir. »
Tu voulais pas.
Et dans le temps, on arrêtait de travailler puis on se trouvait un employeur. Ouais. C'était plus facile.
Ouais.
Et... j'ai donc été... En fait, moi, je suis parti en affaires à ce moment-là. J'ai perdu beaucoup d'argent.
Mais... Et t'es revenu plus tard, parce que...
Oui, je suis revenu en 2006. Okay. En 2005, pardon. 2005-2006, au Nouvel Hebdo. Où là, j'ai été pendant 11 ans de temps, jusqu'à attendre ma retraite. J'ai été...
un parcours éclectique. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en 1974, tu as commencé, tu as couvert un des éléments les plus importants du dernier millénaire, ma naissance.
Ah, OK. je pensais que tu dirais le scandale à la ville de Dolbeau, ouais. Dans le temps qu'il y avait eu, on sait que l'ensemble du personnel cadre s'est un peu ramassé, prise. D'ailleurs, on avait eu une enquête publique qui avait été menée. À ce moment-là, la commission municipale avait pris la direction de la ville pendant deux ans, initialement, mes fidèles. Et on a eu à couvrir ça.
Ah, je ne me souviens pas de ça. Allez, on va décoller ça. Dolbeau Mistassini crée un fonds d'aide pour les entreprises. En quoi ça consiste exactement, ce fonds d'aide-là?
Eh bien, ce que j'ai pu en lire, c'est qu'il existait un programme antérieurement qui permettait de faire en sorte que si tu avais une entreprise et que tu décidais de faire un projet d'expansion quelconque, tu pouvais bénéficier d'une aide financière de la ville de Dolbeau-Mistassini qui allait, si mes mémoires m'est fidèle, jusqu'à une vingtaine de mille dollars à ce moment-là. Et là, on porte... Ce programme-là, en fait, à 150 000 $ tu peux avoir soit des prêts ou soit aussi une aide directe ou un prêt sans intérêt. En fait, il y a deux ou trois formes là, qui peuvent être faites pour des entreprises qui veulent effectivement prendre de l'expansion, améliorer. Au début, le programme était fait surtout pour améliorer les bâtiments. Ça permettait de... Alors, ce programme-là, c'est pour... dans le cadre de la COVID...
Bien, c'était la question. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on l'a bonifié à cause de la COVID?
Ah oui, je pense que oui. C'est qu'il faut qu'on mette de l'avant un ensemble de programmes. Mais il faut dire qu'au niveau de la loi municipale, hein, il y a été des choses qui ont été changées. Avant ça, tu ne pouvais pas, comme municipalité, intervenir directement dans la promotion au niveau d'une entreprise. Et je pense que depuis... je te le donne de mémoire, là, mais il me semble que c'était à peu près vers 2013-2014, où là, on a eu un amendement, effectivement, au niveau de la loi municipale, qui permet à une municipalité de pouvoir soit jouer avec un crédit d'impôt, un crédit donc de taxes, ou encore même intervenir directement pour pouvoir être en mesure de favoriser une entreprise à venir s'implanter chez soi ou à se développer chez soi. Alors, le programme, donc, permet maintenant à la municipalité, oui, d'intervenir peut-être plus directement.
Et avec des plus gros montants.
Avec des plus gros montants de une part, ça dépend toujours aussi de la capacité de payer de la municipalité. Là. Tu peux peut-être favoriser la même affaire à Notre-Dame-de-Lorette, là. Mais je veux dire, tu n'as peut-être pas la même possibilité d'intervention directe. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire aussi à Notre-Dame-de-Lorette, mais ça veut dire que tu as peut-être une capacité financière
qui est plus limitée.
Beaucoup plus limitée. Pour
on a vu que la pandémie a changé beaucoup aussi la manière dont les citoyens vont consommer, vont acheter, vont magasiner. Ils délaissent beaucoup les centres commerciaux, ils vont beaucoup aller vers en ligne. Est-ce que tu penses que cette aide-là pourra aider les entreprises aussi à se tourner vers le numérique?
Ça, je pense qu'il existe actuellement. Tu sais, justement, par au niveau du gouvernement provincial, on a mis de l'avant des politiques pour favoriser effectivement ce traitement-là. Il existe aussi des initiatives qui ont été faites tant par la Chambre de commerce où on favorise justement l'achat local avec Internet aussi, où ça se fait. Jusqu'à quel point un programme comme celui qui est là, c'est beaucoup plus, je pense, pour favoriser la création d'emplois. Et, tu sais, je veux dire, tu pourrais peut-être avoir une entreprise qui vient de mettre de l'avant un nouveau logiciel et ça te permet d'avoir, avec ce nouveau logiciel-là, oui, une entreprise qui se développe, qui part son siège social ici. Donc ça favorise peut-être davantage à ce niveau-là.
Ah, OK, super. La cantine pour tous. Je ne sais pas si tu as vu le projet, le tournant avec 3F pour faire des repas, en fait, pour les écoles, j'ai bien compris.
D'après ce que j'ai pu lire, moi aussi, là, c'est cela qui se met de l'avant pour pouvoir être en mesure de donner aux personnes qui ont... Parce que je pense que c'est un coût minimal qui vient. Si tu as plus de moyens, tu donnes plus d'argent, ce qui permet à quelqu'un qui a peut-être moins, donc, de pouvoir bénéficier là, du prix minimal. Il y a une forme de volontariat là, qui se fait là-dessus. Je te dirais que c'est... Je connais très bien Lise Fortin, qui est la directrice générale de ça. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé pour ces mots, dans mon jeune temps.
À l'époque?
Dans mon jeune temps. Et en fait, l'idée qu'elle met de l'avant, c'est Lise Fortin, qui a toujours eu, un penchant pour, justement, les classes un peu plus défavorisées et aussi d'amener et de permettre à des gens de pouvoir être en mesure de se trouver un emploi et se développer un emploi. On sait que le tournant, c'est effectivement des personnes qui étaient à l'extérieur du marché du travail puis qu'ils réintègrent tranquillement à ce niveau-là. Alors, tu sais, une initiative comme elle vient de mettre de l'avant avec le marché Wahlberg, je pense qu'ils font, en fait, ce qu'ils ont, c'est les cuisines et du Resto 3F, en fait, qui sont utilisés pour faire ça. Moi, je trouve que c'est une initiative certainement intéressante. C'est un projet pilote dans le secteur.
Pour la collectivité, c'est génial.
Au niveau de la région, c'est le seul, là, actuellement. Mm. Fait qu'on peut voir de quelle façon ça va fonctionner et ça va s'orienter. C'est en collaboration aussi, je pense, avec la commission scolaire du pays. Pas la commission scolaire, ça n'existe plus, mais avec... Le centre de services de Marie-Chapdelaine. Centre de services éducatifs de Marie-Chapdelaine. C'est en collaboration, je pense, aussi qu'ils le font.
Pour le prochain sujet, on s'en va à Saint-Edmond-les-Plaines, je m'excuse, qui a enfin réussi à s'organiser pour son programme de traitement des eaux usées. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus.
Non, oui, quand j'étais justement dans mes dernières années au niveau du Nouvelle-Abbeville, j'avais effectivement rencontré le maire de Saint-Edmond pour faire une espèce de plan ou d'avoir où ce qu'on en était pour pouvoir mettre de l'avant cette chose-là. C'était, et c'est encore, et ça a été, un investissement plus que majeur au niveau de la municipalité. On le sait que...
Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'argent, déjà.
Ben non, oui, puis non seulement ça, c'est que ce que tu avais à faire, c'est un traitement des eaux usées où tu as une municipalité qui est fondamentalement agricole.
Ah oui,
fait que les... Ah! C'est ça, puis pour rendre... les tuyaux, comme on dit, là, pour aller, tu fais du chemin un peu, hein? T'as pas quatre maisons dans, sur un bout, là, pour pouvoir le faire. Alors, ça représentait, il a fallu qu'il y ait, le maire y est allé, et je pense qu'on nous, je dis le maire, mais en fait, c'est le conseil de ville. Le conseil de ville y est allé un peu par étapes. Dans un premier temps, on a parlé à l'ensemble de tous les propriétaires qui sont aussi propriétaires de fermes. Écoutez, il faut qu'on le fasse. On ne peut pas ne pas le faire. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire à moindre coût, mais qui peut favoriser justement dans l'arrivée à une meilleure épure? Et par la suite, il y a eu des investissements qui ont été faits en termes au niveau des équipements. OK, on a commencé... étape par étape, ouais, pour pouvoir être en mesure de pouvoir aujourd'hui dire on a réalisé. Pour la municipalité, ça a été fort probablement au cours des dernières années le projet majeur.
Oui, le combat
majeur, oui, pour pouvoir être en mesure, parce que Saint-Edmond faisait partie d'une des dernières municipalités dans le secteur à se doter d'un programme ou d'un système là, qui permet d'avoir un meilleur assainissement des eaux. Et ça a été... c'est maintenant fait.
Et voilà.
C'est maintenant fait. C'est pour une municipalité de cette taille-là, c'est un peu le problème des municipalités rurales. Ah. Tu sais, la municipalité rurale, on dit, ah, il n'y a pas de monde là-dedans. Ouais, mais tu n'as pas de monde. Mais regarde le territoire que tu as à couvrir.
Ouais.
Tu sais, quand tu te ramasses, là, je parlais à un moment donné, j'ai déjà eu l'occasion de travailler au niveau de la municipalité à Normandin. Et à Normandin, quand on faisait l'entretien des routes, ah, tu dis, pas pire, hein? L'entretien des routes, je prenais cette semaine à Saint-Félicien par le conseil de ville. Sais-tu comment ça va coûter pour 3 ans pour faire le déneigement à Saint, dans le secteur Saint-Méthode? 890 000 $
Parce que c'est étendu.
Ah, il y a 7, là. Pour 890 000 $ à Dolbeau-Mistassini, là, hein? Tu fais plus qu'un hiver.
Ben non, mais c'est un des problèmes. Moi, je sais, entre autres, au niveau d'une comparaison que tu fais souvent dans mes cours, au niveau du transport en commun, mettons, entre Saguenay et Sherbrooke, c'est sensiblement la même population, mais Saguenay est 4 fois plus étendu que Sherbrooke.
Exactement.
Donc, le transport en commun ne pourra jamais être rentable.
Non, non, non.
Parce que trop étendu, trop complexe.
Exactement. Tu sais, c'est la même affaire. Fait que quand on dit à une municipalité rurale, ben écoute, il faut que tu te fasses un beau gros programme d'assainissement des eaux, là, tu n'as plus le droit là, d'envoyer ça demain. Hein? Ouais, ouais, on va le faire. Mais un, tu vas nous donner du temps. Puis deux, tu vas nous donner de l'argent pour le faire. Parce que c'est pas vrai qu'on peut demander à un contribuable, écoute, ça te coûterait 500 000 $ pour aménager ton... juste pour chez vous, là. Et là, c'est pas sûr, moi, là. Je paierais pas ça, là, moi. Alors, tu sais, c'est ça qu'il faut être capable de gérer au niveau des municipalités rurales.
On va s'en aller faire un tour du côté de Saint-Félicien. On sait, on a parlé avec X-Men, il y a eu une cyberattaque là-bas, c'était très complexe. Maintenant, les enseignants ont recommencé à enseigner. Beaucoup de choses qui ont été à faire. Et on apprend que ça a eu un coût de près $1 million pour l'établissement, tout refaire le système informatique, etc. Donc, ça a des incidences directes, là, parce que même si tu as peut-être l'argent pour le pays, c'est de l'argent que tu ne mets pas dans la pédagogie,
ah non,
dans
c'est
les
évident.
Locaux, dans le socio-culturel, etc. Là.
Et c'est vraiment... Toi, tu travailles beaucoup avec ça. Moi, je suis un
tu parles de l'informatique?
Dinosaure, oui.
Ouais, ouais.
Ouais, un peu dinosaure
c'est,
à ce niveau-là.
C'est fou mais... parce que nos établissements veulent qu'on aille de plus en plus vers ça. Maintenant, on a... notre OneDrive, toutes nos affaires sont sur Internet, nos listes de classes, nos logiciels pour communiquer, etc. Puis c'est le constat que ma conjointe a fait qui enseigne au service de Félicien. C'est qu'à un moment donné, tu n'as plus accès à la communication, à tes cours. Ça devient complexe. Hein?
Exact. Et est-ce qu'on peut devenir à l'abri?
Je pense pas parce que ça a tellement d'avantages au niveau de la rapidité de communication, de la facilité d'échange. C'est des outils de travail qui fonctionnent rapidement, facilement. Et là, on est là-dedans et personne n'est à l'abri parce que si, je veux dire, on ne peut pas garder des copies papier de tout. On peut pas. Tu penses-tu les courriels, les messages, le nombre de lettres qu'il faudrait que tu écrives, comment ça te coûterait cher en timbre?
Et ça va. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux hackers qui sont, ouais, qui font ça. Il va toujours y avoir les hackers. Il va toujours y avoir une possibilité de. Donc, le système qui nous permettrait d'avoir une sécurité sur ce que nous avons, il n'existe pas. Là.
Faudrait voir si des tu sais, comme par exemple, je sais pas moi, le gouvernement du Canada ou le Pentagone, si, c'est quoi leur système de sécurité, mais est-ce qu'on peut tous se mettre à ce niveau-là? C'est impossible, ça a des coûts faramineux. Puis bon, moi, mon truc, c'est que je fais les copies de tout. J'ai des disques durs externes, puis à chaque mois, je fais les copies de copies de copies. Fait que je le sais que je perdrai jamais rien. Mais il reste que ça va rester problématique quand même si ça va arriver, tu sais, parce que...
Qu'est-ce qu'il y en a des données? Ah. Des données individuelles, des étudiants, des professeurs...
Mais là, on ne le sait pas, parce qu'on le sait qu'il y a eu des vols de données. Mais tu sais, dans la dernière année, ma conjointe a eu des vols de données chez Desjardins, au gouvernement du Québec et à son...
Ben, il est maintenant connu.
Non, mais ce que je veux dire, mais au bout du compte, tu sais, ça n'a pas changé grand-chose. On n'est pas non plus des gens à qui les données sont nécessairement fondamentales, là, dans le sens où moi, je veux dire, même si tu voles mes données, tu ne seras jamais capable d'emprunter un million. Je peux te le garantir. Tu sais. Fait que je sais pas. Moi, j'ai pas peur de ça, mais je comprends qu'il y a des gens qui s'angoissent. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. Puis maintenant, il y a des mesures. Moi, je me suis déjà fait pirater, entre autres, ma carte de crédit. Mais on m'a tout remboursé. Il n'y a pas eu de problème. Ça a pris une semaine. Puis, tu sais, j'ai trouvé le service extraordinaire, en fait. Mais bon, c'est plate, c'est sûr. Ça nous apporte du trouble. Là, c'est à nous à régler un problème qu'on n'a pas créé. C'est plate, mais pour une institution comme le cégep, $1 million, c'est un petit cégep quand même. J'espère que ça n'aura pas des impacts là, à moyen terme.
Quand on parle d'un million de dollars, j'ai pas eu. Naturellement, on n'a pas accès aux données directes. Là. Mais quand on parle d'un million de dollars, ça, c'est pour régler le problème. Tous les impacts qui restent sont encore là. Il en reste encore à régler.
C'est rarement quelqu'un qui va être dans le coin qui va venir pirater. Ça vient de l'extérieur. Comment mener des enquêtes? Donc, il faut avoir trouvé dans quel pays. T'sais, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens qui me parlaient d'un site où tu pouvais aller chercher gratuitement beaucoup de livres imprimés sans avoir à payer les droits d'auteur. Moi, je trouvais ça un peu étrange parce qu'on est obligé de payer les droits d'auteur. T'sais. Mais le site est hébergé en Ouzbékistan. Donc, tu fais quoi? Non, mais tu sais, ton ouvrage, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu peux rien faire fondamentalement. Ou du moins, si tu veux t'attaquer à ça, t'es mieux d'avoir les moyens, tu sais, parce que... Donc, ça devient complexe, en fait, tout ça. Je pense que lâcher prise est la meilleure solution.
Eh oui, donc...
Mais là, dans le cas du cégep, ils n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'il y
ait un système informatique. Faut que tu sois capable de fonctionner.
Oui, ouais, clairement. On va rester à Saint-Félicien, les Serres Toundra, PME de l'année. Wow, quand même!
À la Chambre de commerce, les Mercuriales.
Les Mercuriales, oui, oui, mais quand
ça.
Même.
Puis maintenant, ils ont eu trois prix à ce niveau-là. On sait qu'ils sont aussi en projet d'expansion.
Ben oui,
de surcroît.
C'est le fun. Puis avec la pandémie, on a vu aussi que l'approvisionnement local, il est important. Puis plus on va être capable d'être autonome au niveau agroalimentaire, meilleur on va pouvoir faire face à ce genre de crise.
Hein, exactement, et ça va permettre de pouvoir avoir des masques plus rapidement. Mais c'est une blague ça là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que pour cette entreprise-là, c'est effectivement des retombées qui viennent aussi pour l'ensemble de la région, je pense. On est maintenant, fort probablement, au niveau des concombres, nous allons être l'approvision. C'est la région qui va approvisionner quasiment tout le Québec, parce que je sais qu'ils sont en pourparlers avec d'autres chaînes pour pouvoir... On sait qu'ils étaient avec IGA avant ça, maintenant. Là, ils sont d'autres chaînes là, qui sont en négociation pour pouvoir être en mesure... aussi de les alimenter. Donc, on va tous...
J'espère qu'ils ont une vision aussi où ils veulent pas s'étendre puis exporter leur cocon et leur piment à l'international. Tu sais, que de rester sur le marché québécois, je pense que pour l'environnement aussi, c'est génial.
Il faut dire qu'ils utilisent des résidus pour chauffer.
En plus.
Hein? Ça permet de faire en sorte que les... l'entreprise doit gagner aussi fort probablement les prix au niveau de son de sa capacité de faire du recyclage ou de pouvoir. Ça a aussi un affaire. C'est un beau projet. Et c'est non seulement un beau projet, mais c'est une entreprise qui mène. Et là, je fais abstraction de tout ce qu'il y a, parce qu'on sait qu'il y a eu des problématiques au niveau du personnel, tout de suite, on fait abstraction de ça. Là. On regarde comment est-ce qu'une entreprise de chez nous peut quand même réussir non seulement à percer dans son marché, mais d'être capable de devenir exactement un chef de file dans le secteur.
Génial. Bravo, bravo. Parlant de chef de file ou d'invention qui va nous amener ailleurs, on a maintenant des nouveaux burgers vegan à base de gourgane. Mais quelle bonne idée!
Oui, et...
Parce qu'à part de la soupe aux gourganes, je trouve que les gourganes, ça sert à faire.
On sait que c'est une fève qui comprend, qui a beaucoup de valeur nutritive. Et oui, il fallait probablement y penser. Ça prend un éclair de quelqu'un qui... Eureka, Eureka est trouvé. Et ça permet de faire en sorte que, encore une fois, dans la région, on peut mettre de l'avant certains types de produits comme ça ou qui poussent très bien chez nous.
Ben oui.
On se souviendra. Parce que je me souviens, tu sais, ça m'a fait penser quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a fait penser au Festival de la Gourgane à Albanel dans ses premières années.
Oh, je n'étais pas né.
Exact. Et il me semble que c'est 76. Tu étais peut-être né, mais tu ne mangeais pas encore des gourganes. ça fait en sorte que... c'est ça que ça m'a fait penser. Et je me souviendrai du maire du temps, M. Plourde, qui disait « Il faut que la gourgane, ça devienne... un légume que nous allons faire mettre de l'avant, faire la promotion pour le festival, devenait pour ça. Là. Et tu vois, regarde, ça prend encore une idée comme ça. Ils s'en faisaient, on mangeait de la très bonne soupe au gourganes à Albanel, et il y a eu des mets qui se mettaient de l'avant.
Mais il n'y a rien qui a marché autant que la soupe au gourganes.
Non, bien, c'est sûr, parce que, bon, on la connaissait bien, mais t'avais des tourtières avec des fèves de même. Il y avait divers produits où on mettait de l'avant. Là. Et bon, je te dis pas que c'est là qu'on a pris l'idée de faire, je pense plus que c'est McDonald's qu'on a pris l'idée, là, mais ça prend une idée comme ça, hein.
Et puis, le marché vegan, il est commence plus en plus fort. Fait que c'est intéressant de pouvoir se placer dans ce milieu-là, puis peut-être devenir des spécialistes.
On va voir qu'est-ce que ça va amener. Peut-être que ça peut faire comme, au début, le Festival de Gourgane, oui, on voulait faire ça, on mettait beaucoup d'enfants. À un moment donné, c'est devenu plus festif. On a peut-être mis un peu plus de côté la question de la promotion de la gourgane. Mais peut-être que, oui, là, on veut faire ça, on veut faire un produit vegan intéressant à base de gourgane. Est-ce que les gens vont tous embarquer? Fort probablement que dans cette consommation de vegan, on peut peut-être se dire, ouais, ça
marche. Ça va avec les modes aussi, il faut développer ton marché, tu sais. Moi, je pense, entre autres, aux défunts du bleuet, là, qu'on buvait quand j'étais plus jeune. C'est mort, mais je pense qu'aujourd'hui, si c'était né aujourd'hui, peut-être que le marché serait plus facile à développer autour de ça, parce qu'on en voit beaucoup maintenant des boissons à base de fruits.
De fruits, oui.
Ce qu'on ne voyait pas dans le temps.
Exact, de beaucoup plus là, à ce niveau-là. Mais tu vois, regarde, il a fallu qu'on mette, on fait du vinaigre là, de plus en plus. Là.
Ouais. Je veux parler de la guerre d'arrondissement à Saguenay. Moi, ça me fait toujours rire, ça, parce que là, il y a un projet à Chicoutimi, Jonquière, dit « Bon, ben là, pourquoi tu fais à Chicoutimi, c'est pas à Jonquière? » Puis, tu sais, on a un peu eu ce débat-là ici à Dolbeau et Mistassini, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, les gens associent maintenant Dolbeau et Mistassini comme une ville. C'est que moi, ma réflexion, c'est de dire que ce soit dans l'arrondissement Chicoutimi ou Jonquière, ça reste dans la ville de Saguenay, c'est une ville. Je comprends pas ce tiraillement-là. Comment t'expliquerais ça, toi?
Essentiellement par qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été difficile de faire ces fusions-là, c'est par le sentiment d'identité que tu t'attaches à ton secteur. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a toujours été, qui a vécu à Jonquière, qui a toujours été à Jonquière. Eh bien, de ça, il, avant d'être à Jonquière, il était peut-être à Canogamy, il était peut-être à Vida. Il était. Et je prenais. Tu sais, on parle de la possibilité que Rio Tinto se débarrasse encore une fois du fameux manoir du Saguenay. Ah, puis je prenais le reportage de quelqu'un qui demeure là, à Arvida. Il dit, hey, dis-moi, il dit, j'ai toujours vécu à Arvida.
Ouais.
J'ai toujours vécu, j'ai toujours eu ça. Ça fait partie de mon quotidien, de mon environnement direct. Tu sais, je voudrais pas qu'on s'en débarrasse de même ou qu'on le débâtisse ou quoi que ce soit. C'est le même phénomène au niveau des arenas. Je te dirais que même à Dolbeau, Mistassini, t'as encore. OK, des velléités de dire, moi, je demeure à Dolbeau. Je demeure à
Mistassini.
Je m'identifie encore à ce qu'on avait comme personnalité collective dans ces municipalités-là. Et quand on parle, oui, on va, c'est la question de l'argent, là. Écoute, là, les premières années à Dolbeau-Mistassini, là, OK, qu'est-ce qui se disait? Ben oui, c'est sûr. Ben non! Tout s'en va à Mistassini parce qu'il y avait un retard sur certains équipements, sur certains l'assainissement des eaux. On prenait. Et tout le monde disait, regarde, on prend la rampe, on l'envoyait. Voilà la fusion, là, ça a fait ça. Sauf que, oui, il y avait peut-être certaines problématiques à régler, mais ça, ça avait fait aussi l'objet, lorsqu'il y a eu des fusions. Il y a eu de l'argent qui a été amené par le gouvernement. Et ça faisait partie des programmes qui étaient incitatifs à la fusion, qui faisaient en sorte que, bon, oui, il faut peut-être refaire un peu une partie d'avoir de l'eau potable meilleure. On va mettre tant de millions, là, tu regardes.
On l'a, là.
OK? On l'a, là, faites-les. Fait que là, quand là, le conseil de ville prenait la décision de faire un budget, bien, il dit, regarde, c'est, on prend cet argent-là, là, puis on regarde, tu prends tout ton argent. Puis ça, là, tu ne pourras pas attendre avant la deuxième génération, avant qu'on se dise, je ne suis pas de Dolbeau, je ne suis pas de Mistassini, je ne suis pas d'Arvida. Parce qu'Arvida, Jonquière et Canogamy, aujourd'hui, les gens s'identifient à, encore à Jonquière plus qu'à Saguenay.
Mais... moi, il y a une problématique que j'ai là-dedans. C'est que quand ça arrive, et ça arrive régulièrement à Saguenay, c'est toujours Jonquière qui chiale parce que c'est à Chicoutimi. Mais, donc, on légitime le fait de critiquer un investissement qui sera ailleurs que dans mon arrondissement. Mais si les élus de Chicoutimi faisaient la même chose quand il y a un projet à Jonquière, pas ça, ça passerait, moi.
Il n'y en a peut-être pas.
Il y en a eu, puis il y avait matière à pouvoir mettre son grain de sel aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans que je ne suis pas capable d'expliquer, là, mais qui est clair là, pour moi là, quand je suis l'actualité.
Ou ça ne s'exprime pas de la même façon.
Peut-être.
C'est peut-être plus ça. Oui, là, on va prendre... tu sais, je regardais les trois conseillers là, qui ont dit... au lieu de prendre l'argent, je ne me souviens pas quel projet.
C'est pas pour le pont Saint-Anne?
Le pont Saint-Anne. On pourrait peut-être mettre ça en guerre.
Oui, on peut tout mettre ça tout le temps ailleurs.
On pourrait le mettre ailleurs. C'est sûr, à un moment donné, tu es élu pour faire des choix aussi, pour prendre des décisions. Et dans ces choix-là, je veux dire, le pont Saint-Anne représente, quand on le veuille ou non, au même titre que tout à l'heure, on parlait du manoir du Saguenay.
Oui.
Au même titre.
Un icône.
Ça fait partie du paysage et tu ne peux pas, du revers de la main, dire, écoute, on le met à terre, bon, là, t'enlèves un pan de ton histoire. Ah, oui. Et ça, c'est pas bien, bien correct.
Le Saguenay puis les pans de l'histoire, ils en ont démoli pas mal. Bon, critique personnelle. On prend une petite pause, on revient tout de suite après la pause. Restez avec nous.
Vous le savez, j'aime aller voir des matchs en personne pour encourager nos équipes. Mais en ce moment, il faut serrer les coudes. Il faut juste être discipliné. Et ça, je sais qu'on est capable. Il suffit juste de suivre les mesures en place. Éviter les rassemblements en famille ou entre amis. Respecter le 2 mètres. Plus on va le faire, plus vite on va pouvoir remplir des estrades comme ici.
Bye. Pour réaliser des grandes choses, ça prend beaucoup de monde, que ce soit en cinéma ou dans la vraie vie. En ce moment, pour aller de l'avant, on doit tous suivre les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements en famille et entre amis et se tenir à 2 mètres. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout avec les enfants, mais on peut y arriver. C'est vraiment en se protégeant le plus possible qu'on va tous passer plus vite au prochain épisode.
Je savais que ma fille voyait des amis, qu'elle faisait attention, puis je la crois. Elle avait aucun symptôme, donc elle s'est envenue à la maison. Sauf qu'elle est tombée malade, puis moi aussi. Dans mon cas, bien, je suis passée à 2 doigts de mourir. Je suis contente d'être toujours en vie, parce que j'aurais surtout pas voulu que ma fille vive avec ça sur la conscience. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
Moi,
je travaille en français.
Moi, je travaille
en français.
Moi,
je travaille
en français.
Moi,
je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
On est de retour de la pause et on continue immédiatement dans l'actualité. On part de la région, mais c'est une question beaucoup plus large que j'ai à te poser. Il y a des accusations de cas de racisme envers un Autochtone à l'hôpital de Chicoutimi. Tout ça quelques jours après ce qui s'est passé à Joyce Echaquan, là, à Joliette. On ne commentera pas ce dossier-là parce qu'il y a peu d'informations, il y a une enquête, etc. Mais ça m'amène à réfléchir, et je me suis posé la question toute la semaine dernière. Le gouvernement reconnaît qu'il y a du racisme au Québec, mais ne veut pas dire qu'il y a du racisme systémique. Tous les spécialistes, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a du racisme systémique au Québec envers les Autochtones. Pourquoi le gouvernement n'ose pas dire ça?
C'est quoi, du racisme systémique?
C'est que le système nous amène à être raciste sans le vouloir. C'est que fondamentalement, on a créé, comme la culture du viol, tu sais, on ne dit pas que tu es un violeur, on dit que culturellement, tu as des comportements que tu ne réalises même pas que tu as. Parce qu'en société, on a grandi avec des préjugés, parce qu'être raciste, là, c'est pas inné, là, ça s'acquiert, parce qu'on voit, on répète des comportements, on comprend les choses en tant qu'enfant qu'on va perpétrer avec le temps. Et, je veux dire, la situation des Autochtones est...
Si je le reconnais, là, ouais. Le racisme systémique, je me pose des questions.
Oui, c'est correct.
Et j'en profite,
ben oui, vas-y.
Quand même, un spécialiste en avant de moi, là. Si je reconnais ça... C'est quoi que ça va faire pour solutionner le problème? Est-ce que le fait de le reconnaître va solutionner?
Parle à n'importe quel expert. Reconnaître un problème, c'est le premier pas pour le régler.
Et
si
quand,
tu ne reconnais pas un problème,
dit,
comment tu vas faire pour le régler?
Bien, quand le gouvernement dit, écoute, regarde, il y a des actes racistes qui se font au Québec, quels sont les moyens, quelles sont les actions, je veux qu'on agisse pour pouvoir être en mesure... Pourquoi est-ce que j'ai... de besoin qu'on me dise que ça, c'est du racisme systémique.
Parce qu'au moment où on va le reconnaître, on va faire des mesures pour changer le systémique à place de faire des mesures pointues pour les services de santé, pour la police, pour les affaires. On va commencer à parler d'éducation, à changer l'histoire qu'on s'est fait raconter par les religieux pendant tout le 20e siècle qui est en partie fausse. On va reconnaître que il y a des cultures. Tu trouves pas ça normal, toi, qu'on dise toujours les Autochtones? Non, c'est les Inuits, c'est les Abénakis, c'est les Inuits. Non, mais pourquoi on les reconnaît pas pour ce qu'ils sont? C'est des peuples qui existaient bien avant, qui occupaient le territoire. Bon, moi, je trouve ça vraiment dégradant, en fait, comment on peut les traiter et comment le système continue à faire perdurer ça. Faut pas oublier que toutes les nations autochtones au Canada, si on faisait un pays avec, ce serait un des 30 pays les plus pauvres au monde. OK? Et pourtant, ils sont dans un des plus riches. Et tous les indicateurs socio-économiques, présence en prison, les problèmes sociaux, etc., qui sont beaucoup plus grands dans ce secteur-là, comme on peut voir chez les Afro-Américains aux États-Unis. Pourtant, on reconnaît clairement qu'il y a un racisme systémique aux États-Unis. Je veux dire, il est là.
Ben là, parle-en à Trump.
Ben là, non, parce qu'on ne peut pas parler de rien. Il y a de la vérité, puis il n'écoute pas.
Ah, c'est ça. Mais c'est parce que moi, là, je trouve... Ce que je vois, c'est que le fait de se dire, il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique avant d'agir ou de pouvoir être capable d'agir efficacement. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est encore une fois que tu as eu dit ça, oui, il existe un racisme systémique.
Ouais.
Mais là, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que je décide par où je commence pour éduquer ma population à ne pas l'avoir.
La différence, c'est quand tu considères que c'est un problème de racisme à un endroit, tu vas régler un problème à un endroit. Quand tu considères que c'est un racisme systémique, tu vas régler un problème de système. Donc, tu vas changer la manière dont on va enseigner l'histoire, en fait, nos relations avec les Autochtones. Mais fort probablement que
c'est une des actions qui va se faire. Si je reconnais qu'il y a du racisme à l'endroit des Autochtones au Québec, le fait de reconnaître ça, de dire que ça, bon, ça existe, ça, là, c'est pas un cas individuel, c'est oui, fort probablement. Je reconnais qu'il va falloir que j'agisse pas avoir la même ma première action.
On a eu la commission vient il y a un an, il s'est rien fait. On fait rien. On fait des recommandations.
En fait, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète là. Ben, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il y a 50 recommandations qui sont en marche.
Et ils se sont
excusés. Et ce que ça nous prenait, c'est pour pouvoir être en mesure d'agir concrètement, d'avoir des actions concrètes. Ce que nous demandons, ben, c'est ce que Legault dit là. Ce que nous demandons, c'est au chef de venir, au chef de toutes ces nations-là, de venir qu'on s'entende sur voilà la priorité numéro un, c'est là qu'on marche. Il va falloir que ça soit systémique ou pas. Il va falloir qu'on décide c'est quoi la première action qu'on met de l'avant.
Bien oui, clairement. Mais la première action, si ton problème, tu le considères comme une situation raciste dans un endroit, elle va cibler une situation raciste dans un endroit qu'on va essayer peut-être de copier à d'autres endroits où on considère que le problème est pareil. Mais au problème, au moment où on considère que c'est systémique, on va changer la manière de fonctionner à la base, donc du système.
T'as-tu peur, on n'a pas peur d'arriver au mur à mur avec ça, là?
On n'a pas peur d'arriver au mur à mur?
Au mur à mur, tu as dit, voilà la solution, là, garde mur à mur, peu importe la région, peu importe le secteur, peu importe le peuple. Voilà c'est quoi, là, qu'il faut faire. Fait que là, par contre, ça, là, ça
ben,
me fait
penser... Je pense que l'éducation...
Ben, moi, je pense que c'est... Bon, c'est la priorité numéro un. Il va falloir que, oui, il y ait, au niveau de l'éducation, au niveau de et ça ne commencera pas avec les jeunes, parce qu'on va se ramasser dans deux générations avant d'être capable de pouvoir le régler, le problème. Ouais. Il faut que ça commence tout de suite. Fort probablement que nous avons, oui, une responsabilité au niveau des médias de pouvoir être en mesure l'éducation. De pouvoir commencer par cette éducation-là. Le gouvernement va se devoir d'investir dans des actions, oui, de communication, qui font en sorte qu'ils vont t'amener à le changer. Mais ça, là, c'est une action qu'il faut que tu détermines. Il ne pourra pas, et il va falloir que, oui, qu'on le veuille ou non, les actes racistes identifiés au niveau de la santé, il faut qu'ils soient abolis. Il faut qu'on les enlève. Et ça, c'est une autre action qu'il va falloir faire. J'ai pas besoin de savoir si je suis dans un racisme systémique.
Non, OK, mais je te retourne la question. Qu'est-ce que ça change d'abord qu'ils l'affirment puis qu'ils le disent? Qu'est-ce que ça change pour le gouvernement si, de toute façon, ils vont poser des actions? Qu'est-ce que ça change pour eux de le dire? Rien.
Ben, c'est de dire que le chef de l'État, OK, dise, écoute, mes gens, là, ce sont des racistes.
Non,
c'est
pas ça que je dis.
C'est systémique.
Ben non, mais c'est que le système nous amène à avoir des comportements racistes sans qu'on soit nécessairement raciste. Moi, je pense pas que je suis un gars raciste dans la vie, mais clairement, des fois, j'ai des comportements parce que j'ai été éduqué dans la manière. Mes agents de socialisation, qui sont le Québec, m'ont amené à avoir des comportements. Tu comprends? Mais c'est pas toujours réfléchi, ça.
Donc, ce que tu me dis, c'est que si je le reconnais...
Ouais.
Je vais trouver la solution pour. Si
ben,
c'est pas
on va, ben, le monde va si commencer à se poser des questions au moment où on va affirmer sur leur comportement, sur leurs agissements. On va pouvoir peut-être poser, on va s'intéresser aux nations autochtones pour une fois. Je veux dire, quand là, on a une. Je nommerai pas de nom, là, mais mettons qu'on a là, une petite fille qui se fait enlever au Québec. Tout le monde va savoir son nom, tout le monde va savoir ce qui se passe. On a eu plus de 2000 femmes autochtones assassinées ou disparues. Es-tu capable de m'en nommer une? Aucune. On n'a pas la même considération. Si on pense, jusqu'en 1986, les femmes autochtones n'avaient pas le droit de vote. C'était des non-personnes. Ouais. On peut-tu reconnaître qu'on a créé un régime avec les pensionnats, avec la religion catholique, avec tout ce qui s'est passé, qui a amené aujourd'hui à ce qu'on ait des comportements racistes sans nécessairement être raciste? Tu comprends-tu l'essence du racisme systémique?
Quand le gouvernement dit « il y a du racisme au Québec.
Mm-hmm.
OK? Mm. C'est les individus qui le font. Et de là, elle dit que c'est le système qui le fait. Je comprends ce que tu m'as dit.
Oui, je sais, okay, mais je moi, l'impression que j'ai...
parce que si c'est le système qui l'amène, et donc tu changes le système.
Ben oui, il faut changer les affaires.
Ben oui, mais tu vas le changer. C'est quoi que je change?
Qu'est-ce que ça change de le dire ou pas le dire? Donc, affirmons-le, on va partir sur une base égale. Ah, c'est tellement facile de dire, ah non, moi, je ne suis pas raciste, ça s'est passé à Joliette. Moi, je ne fais pas ça. Non, mais culturellement, on fait tous, on pose tout et on a tous des commentaires et des réflexions et des manques de respect ou de l'incompréhension envers ces communautés.
Oui, et je dirais même que oui, par rapport aux Autochtones, mais je te dirais même par rapport à certaines autres.
Ben oui, mais commençons par les gens. Puis moi, là, il y a un rapport là-dedans que je trouve étrange. Hein. Beaucoup de gens, j'ai l'impression que le Québec s'est beaucoup bâti face à sa victimisation face au Canada anglais, mais a de la misère à affirmer que lui a été aussi le bourreau des Autochtones au Québec, parce qu'il est comme pris entre deux eaux.
Oui.
J'ai l'impression
ça,
que...
Ça, ce phénomène-là, là, mais c'est pour ça, là, était...
Tu sais, on voudrait donc bien que le Canada reconnaisse qu'ils ont été méprisants envers les Québécois, mais nous, on n'est pas prêts à dire qu'on a été méprisants envers les Autochtones. J'ai un problème
avec
ça.
Moi, je pense que ce qui se dit actuellement, c'est que il faut que nous éliminions tout comportement raciste au niveau de la société. On ne réussira pas ça.
Ben non.
Mais il faut que l'on s'attaque à certaines... par des actions à certaines de ces considérations-là, de ces comportements-là.
De toute façon, on n'arrivera pas à
s'en rendre. Non, moi, c'est parce que moi, je pense que c'est une... que je le reconnaisse ou pas, OK, si c'est pour reconnaître et que ça amène à rien, ça me donne rien. Si je reconnais qu'il faut que nous fassions des actions afin de contrer des comportements raciste, je pense que là, on s'en va vers la
Moi, je pense qu'au moment où on sera capable de le reconnaître, moi, je te retourne la question, si ça ne change rien, pourquoi pas le dire? Parce qu'au moment où on va le reconnaître en tant que société, nos actions vont être collectives et ne seront pas ciblées sur des individus ou des cas particuliers. Mm. Moi, je crois bien gros à ça. Maintenant, on va changer de sujet parce qu'on va en parler tout le reste du temps. Course au PQ! Parlons-en de nationalisme. Course au PQ, comment ça se passe? Le vote est cette semaine?
Oui, c'est quoi ça, ton analyse? Vendredi, on devrait être en mesure de connaître...
le nouveau chef?
Qui est le nouveau chef, parce que, bon...
Il y avait quatre hommes?
Il y avait quatre hommes qui se présentaient. Ça devrait... Ce qu'on me dit, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que dès lundi matin, parce que tu peux voter de deux façons, soit par téléphone ou encore par Internet.
Okay.
Et dès lundi, ça n'a pas dérouillé. Au moins, d'après ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, au niveau du membership, oui, on a senti le besoin de voter, de faire valoir par son vote, son choix sur le futur. Alors ça, j'ai hâte de voir le taux de participation. On sait qu'il y a 30-quelques mille membres en règle qui pouvaient voter. Or, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a eu des sondages qui ont été faits au niveau de la population générale, et non pas nécessairement
au niveau des membres.
Il faut faire attention quand on lit ces sondages-là. Et il faut vraiment oublier aussi que quand tu lis les sondages, parce qu'il y a un phénomène dans les courses à la chefferie au Parti québécois, OK, qui a toujours été en vigueur et que jamais personne ne met de l'avant.
Mais toi, tu vas faire ça aujourd'hui.
Oui, OK.
T'as pas de la discrimination systémique envers les régions?
Envers les régions, c'est là! C'est là que je te dis qu'il y a... on a des candidats actuellement qui vont... qui se présentent, qui sont d'origine des régions, et qui ont mis de l'avant dans les idées qu'ils voulaient faire valoir que la place des régions doit être importante. La grosse majorité du membership, qu'on le veuille ou non, en termes de population, est à Montréal. Or, à Montréal, si je tiens le discours, un discours où, sans mettre de côté la question des aspirations de certains types de régions, je ne les mets pas de côté, Mais ce qui est plus valorisant, c'est la population qui doit répondre à des problématiques qui sont davantage situées dans des grands centres et que l'indépendance du Québec permet de pouvoir les régler. Mm-hmm. Tu comprends? Je vais aller chercher, que je le veuille ou non. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'un, entre autres, qu'un gars comme Sylvain Godreau, qui est des régions, qui a voulu faire valoir le principe des régions et qui a aussi, et qui est actuellement reconnu comme étant un des politiciens au niveau d'un dossier qui fait l'unanimité au Québec, soit l'environnement, mm-hmm. il est reconnu comme étant non seulement un porte-parole, mais un individu qui veut mettre de l'avant des actions pour favoriser au niveau de... d'ailleurs, il veut faire du Québec le premier pays à être à l'ONU et pays vert. Donc ça, ça veut dire que toute ton économie, toute... Ouais. Hein, ça veut dire...
Une grosse transformation.
Ben oui, mais ça amène à moi, tu as dit beau projet de société aussi.
Hein, donc, transformer une société, changer le système, ça se passe.
C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais tu sais que ça te prend? Ça te prend un geste de rupture quelque part. Uh-huh. Et ça, la rupture quelque part, ce n'est pas juste en déclarant « je suis un Québec indépendant » ou « je suis du racisme systémique ». OK? C'est de se dire « voilà, nous allons... » procéder, faire l'indépendance du Québec lorsque nous serons élus. Alors, c'est qu'est-ce que le chef ou, va amener comme idée? J'ai eu l'occasion d'écouter aussi Plamondon, OK? J'ai même acheté son ouvrage, là. Ouais. Lui, c'est, bon, le camp du oui, il faut que nous remettions le camp du oui. C'est d'amener politiquement le Parti québécois à être non seulement plus nationaliste, mais à se dire, pour pouvoir être en mesure de s'accomplir pleinement, voilà ce que nous devons faire. L'environnement, ou, tu sais, le projet de société est « soyons indépendants ». Tandis que, bon, Godreau amène « soyons indépendants pour pouvoir faire ça ouais. ». OK, la différence m'apparaît aussi là. Est-ce que les membres vont faire le même type d'analyse que ce que je fais là? Fort probablement pas, mais à tout le moins, il va y avoir encore ce clivage entre les régions.
Qu'est-ce que tu penses des deux autres candidats, Bastien et Nantel?
Bon, Nantel, je pense que... Je pense qu'il croit à l'indépendance du Québec, OK? Et là, ce qu'il suit, c'est son passé, lui. Bon, c'est un humoriste, je veux dire, ça veut
mais
pas
il est
dire...
populaire, il est connu, il s'exprime bien,
il est très articulé sur mm-hmm. la question de c'est quoi. Ça, j'ai pas de misère, on n'a pas de misère avec ça.
Mais sa connaissance du monde politique, c'est ça.
Ben, peu importe. Et moi, j'ai toujours dit, tu sais, à un moment donné, j'ai participé à des élections où est-ce qu'on disait, il y a un maire qui se présente député. Ah! On va voter pour lui, il sait c'est quoi la politique. Il se battait contre quelqu'un qui n'était pas maire, OK? Et qui n'avait pas été ministre dans un... lui, là, il est aussi... Il y a rien d'écrit... Qui dit que ça te prend d'être maire pour pouvoir être capable.
Il y en a plein qui arrivent en politique.
Tu as le même phénomène. Lui, il est aux prises avec je suis un humoriste et oui, je suis un humoriste qui croit à l'indépendance du Québec. Mais ce que les gens peuvent avoir peur, c'est se dire écoute, vas-tu nous envoyer une blague? Ah, ben, d'ailleurs, il l'a reconnu au tout début que c'était un gros frein. Et je pense qu'il l'a eu pendant tout le long. D'autre part, le type de campagne à la chefferie qui a été menée, ouais. qu'on a menée, qu'on est obligé de mener, OK, où est-ce que tu ne pouvais pas voir de monde, mais que tu pouvais regarder les écrans de l'ordinateur, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu non plus la chance
de se faire
voir et entendre adéquatement ou correctement. Je sais que les autres en ont fait de ce genre d'activité-là, mais Avec 20 personnes, là, tu ne rencontres pas 150 puis 200 personnes dans un comté. Mm. Hein, tu en rencontres 20. Puis les 20 que tu rencontres, c'est fort probablement des 20 qui vont au départ de pied. Ils n'auraient pas eu besoin de te voir.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas grave. Alors, c'est ce qu'il y en a. J'ai hâte de voir les résultats, par ailleurs. Mais, tu sais, il y a le phénomène aussi de... Tu fais un premier choix, un deuxième choix, et tu avais la possibilité de faire un troisième choix. Or, si au premier tour, tu n'as pas 50 % plus 1, je ne me souviens pas c'est quoi le pourcentage.
C'est,
oui.
C'est 50
ça, c'est 50 % plus 1. Donc, tu vas prendre tous ceux qui ont voté pour toi au deuxième choix, tu vas les additionner. Alors, je pense que c'est là-dessus. Que,
ça va
d'ailleurs,
jouer.
Quand François Lisée a remporté, ça a été le phénomène aussi. Il est en train, ton deuxième choix.
Bon. Je veux te ramener 50 ans dans le passé, crise d'octobre. Ouais. Là, on fête les 50e anniversaire de la crise d'octobre. Et là, on voit ressortir beaucoup de gens qui disent on voudrait avoir des excuses. On voudrait que Ottawa reconnaisse les événements, que c'était de l'abus, etc. Et le gouvernement fédéral semble pas très chaud à l'idée.
Pourquoi? Moi, je pense que c'est bon à faire la chute.
Hein?
C'est bon à faire la chute.
Non.
Non.
Je pense qu'il assume. Qu'il assume
Écoute, le fédéral dit et a dit dans le temps, hein, on a une insurrection appréhendée. Or, on prend la loi des mesures de guerre et on s'organise pour que ça n'aille pas plus loin. Il y avait eu des petites bombettes avant, là, bon, puis tout le quête. Et là, on se dit, wow, on arrête, bon, ben, tous tes droits individuels, t'en as peu. On va l'arrêter qui on veut. Puis de la façon dont on veut, puis on va...
Mais ça a été démontré que ça ciblait beaucoup les nationalistes, le Parti québécois,
etc. C'est évident. C'est évident qu'ils sont allés chercher... je prenais hier soir un reportage, ils sont même allés en Alberta,
ah, oui, c'est ça, j'ai vu ça.
Pour voir qu'il y avait des gens qui étaient sympathiques aux idées du FLQ. Ça, là, moi, je pense que le fédéral, il a agi comme il pensait qu'il devait agir. Il a eu peur.
Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas besoin de s'excuser? Puis
Pourquoi?
Pour reconnaître. Reconnaître ses erreurs, moi, je pense que c'est un geste.
Ben, pour eux autres, il n'y a pas d'erreur.
Oui, c'est ça. C'est ça ce que je comprends. C'est qu'il n'y a pas eu d'erreur.
Il n'y a pas eu d'erreur pour eux autres. Pour eux autres, c'est qu'ils pensaient qu'on se serait. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on était aux années 70. Donc, au tout début, on est en 1900. On vient d'assister dans le monde entier aux années 60. Où est-ce que tu as eu des mouvements comme qui existaient au FLQ qui ont fait en sorte que le pays sont devenus indépendants?
Oui.
Là, lui, ils sont dans cette logique-là, là,
ouais.
Les gars à Ottawa. Les gars
pas prendre la chance.
Il y avait
ouais.
Une coupe de filles.
C'est vrai que c'était à l'époque de la
décolonisation. Ben oui, mais c'était après la décolonisation. Ils se disent tout, wow, on arrête. Là. Ils ont agi comme ça. Oui, ils ont fait il y a eu des pères puis des mères de famille qui ont été arrêtés.
En pleine nuit.
Oui, puis qui...
sans mandat, qui ont été accusés de
devant les enfants, puis envoyé, tu t'en viens. Oui, il y a eu des gestes, fort probablement, où si tu avais eu un comportement un peu plus humain, tu n'aurais peut-être pas travaillé de cette façon-là. Mais je me suis chapeauté avec la loi des mesures de guerre et il y avait une appréhension. Est-ce que c'est quoi... les informations qu'ils avaient sur l'appréhension. Aujourd'hui, il y a eu le fils de Paul Rose, hein, qui vient, Félix,
ouais.
Qui vient d'écrire, pas d'écrire, mais
de faire un film.
Et j'ai hâte de le voir, ça.
En fait, je pense qu'il faut faire la différence aussi, parce que entre le message ou l'idéologie pour les travailleurs, etc., puis les actes de violence qui sont complètement inacceptables.
Mais c'était la façon... Le faire au même titre qu'actuellement. Je sais qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller là, mais garde Trump.
C'est mon dernier sujet, on arrête de parler de ça, puis on s'en va.
Juste pour dire que la loi des mesures de guerre, ou enfin la crise d'octobre, c'est un élément, je pense, important dans l'histoire du Québec. Non pas juste pour la question du mouvement indépendantiste. Ça a eu un tournant parce que quand on est dans les années 60, là, le RIN, le PQ, bon, puis tout, c'est pourquoi est-ce que c'est qu'ils sont venus au monde aussi? Tu sais, il faut regarder ça.
Le contexte
et le
mondial,
FLQ, oui, était une action ultra pour pouvoir être en mesure d'en arriver à la même affaire. Mais c'est fondamental dans l'histoire.
Je t'arrête. Donald Trump, les élections américaines, il nous reste quelques minutes. Je sais que tu voulais en parler parce que tu adores les élections américaines et tu adores Donald.
Ouais. Ouais. Eh bien, on fait tout ça. Bon, premièrement, il a remédié à COVID-18, là, puis à 19 non plus, il l'a quand même eu. OK? Tu le vois, là? Hein? Deux jours après, là, il se promène, là, puis tout le kit, puis il a de l'air fatigué.
Parce que c'est lui, il est un peu responsable face à...
Non, il l'a pas eu. OK, bon, ça, c'est réglé. C'est un menteur de la pire espèce qui a toujours menti dès qu'il est né et puis qui va mentir encore. Ceci étant dit, je sais que je fais de la libelle diffamatoire. Je m'en excuse immédiatement. Mais... Ceci étant dit, d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui l'a traité de menteur. Biden l'a aussi traité de menteur lors de la...
du non-débat.
Du non-débat, effectivement. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est de l'exemple concret. Moi, j'ai toujours dit, j'adore la politique. Pourquoi? Parce que ce sont des idées qui s'affrontent.
Ouais.
Là, et là, on est dans un système politique...
Dans un outrancier.
Non, non. Le système, et là, on parlait de systémique tout à l'heure, le système américain fait en sorte que, pour pouvoir élire un président, tu élis une personne et non plus des idées, et non plus des programmes. Et il en est l'illustration numéro un. On est actuellement, il y a eu un fameux film qui s'est appelé « Le déclin de l'Empire américain
».
On est dans le déclin de l'Empire américain.
Oui, puis il se fout des institutions. Moi, c'est ça que je trouve le plus triste, c'est que normalement, le système américain n'est pas parfait, mais il y avait le « check and balance » qui aidait, mais lui, il se fout complètement des institutions en ce moment. Moi, c'est ça que je trouve le plus triste, en fait, dans cette histoire.
Mais,
pour les Américains, entre autres.
Oui, mais le peuple américain est tellement divisé.
On polarise tout en ce moment. Tout est polarisé. Et ça fait qu'on n'est plus capable d'avoir vraiment une réflexion saine en faisant le tour de la question parce qu'il faut rapidement savoir on est dans quel camp, puis pourquoi, puis... Mais la vérité est beaucoup plus grise qu'on
pense.
Merci, Jules Simard. C'est très agréable encore d'être avec toi aujourd'hui et discuter de tout ça. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!